enregistrement de l'émission mercredi prochain à partir de 18h dans le grand hall de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter.
La différence.
Et l'on retrouve tout de suite Daniel Mermet avec Là-bas si j'y suis.
Y'en a marre de nous parler de la neige. On est en février, c'est l'hiver, y'en a marre.
Madame Badinter est au féminisme ce que la burqa est à l'islam. Hein. Sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, ça fait réagir. En entendant les protestations des personnes qui s'opposent à elle, je suis attristée du niveau des reproches au ras des couches. Rappelons qu'à après le 18e siècle éclairé, il y a eu le 19e puritain qui a tenté d'asservir les femmes conformément à la morale judéo-chrétienne. Aujourd'hui, cette morale est différente, mais le conformisme existe bien. Les injonctions sociétales sont aliénantes pour la plupart des femmes qui doivent jongler avec le travail souvent d'exécution, donc peu valorisant, et l'élevage des enfants. Le débat doit être politique et non ramené au niveau des détracteurs choqués que l'on aille contre l'air du temps des bobos laveurs de couches. Moi, je leur laisse le soin de s'emmerder dans la vie si leur épanouissement passe par là. Avant, j'étais expert comptable. Maintenant, je suis femme au foyer. J'ai allaité mes trois gosses. Je leur ai donné des petits pots. Je leur ai mis des couches jetables aux fesses. Mais je soutiens la démarche de Madame Badinter.
Oui, allô. Alors là, nous sommes un collectif anarchiste de la Fédération anarchiste d'une trentaine de personnes qui occupe actuellement le quartier général de Valérie Pécresse. Donc ce quartier général est une péniche sur laquelle nous avons hissé des drapeaux pirates à tête de mort. Une banderole proclame « Ne nous laissons pas terroriser par l'État ». Donc cette occupation vise à protester effectivement contre la répression de tout le mouvement social et être en solidarité avec nos camarades sans-papiers enfermés dans les CRA. Ne lâchons rien, restons pirates. Merci et ciao.
L'usine Philips de Dreux qui fabriquait des écrans plasma va fermer. Bon, je ne me fais pas d'illusions, hein. Les écrans plasma, on va toujours en produire et on va les produire dans des pays à bas coût. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement, pour le consommateur, eh bien, ça lui fait faire une économie de combien d'avoir des produits fabriqués en Chine ou ailleurs? J'ai un peu la réponse. Dernièrement, un représentant est venu nous vendre du matériel pédagogique, des multimètres, qu'il nous proposait à 50 euros. Et évidemment, il nous a dit que c'était des appareils fabriqués en Chine. Mais moi, je lui ai demandé, ça coûterait combien d'avoir les mêmes appareils fabriqués en France? Il m'a dit, 70 euros. Ah oui, d'accord. Donc 20 euros de différence, à peu près, hein. Ça vaut le coup de détruire des milliers d'emplois en France pour gagner 20 euros sur un appareil. Alors les écrans plasma, pareil, le consommateur va gagner combien? 50? 100 euros sur un écran? Et puis après, il va pouvoir s'endetter avec des crédits revolving à 20% pour pouvoir se le payer. Le problème, il est aussi dans l'acte d'achat, qu'on regarde bien. Tant que les consommateurs continueront de se jeter sur des produits pas chers pour vraiment gagner des poignées d'euros, tant qu'ils comprendront pas que c'est comme ça qu'ils pètent tous les emplois, leur propre emploi, ben je crois qu'on s'en sortira pas beaucoup. C'est une conscience collective à prendre en compte et puis eh bien on n'est pas prêt de la toucher. Hein. Voilà, 20 euros hein, sur un appareil pour le fabriquer en Chine. Ça vaut le coup hein, quand même. Salut.
Bonjour. Je voulais voir à propos des retraites. Je suis contre, bien entendu, qu'on recule les retraites. J'estime qu'à ce moment-là, au bout de 5 ans, quand un député a travaillé, il n'a pas droit à retraite, il fait comme tout le monde, 40 ans, 41 ans. Le président de la République n'a pas à s'augmenter des salaires, la retraite, il n'y a pas plus droit, ni les grands patrons. Je crois que c'est là-haut qu'il faudrait plutôt s'occuper des retraites. C'est grand temps.
Bon, ben voilà, vous avez compris. On est attaqué par l'ennemi, les adversaires, qui sont en train de nous censurer, nous couper, nous empêcher de parler. Non, non, on vient d'avoir toute une série de bug, ça s'appelle. Nos ordinateurs sont en train de sauter. Pourvu que ça tienne jusqu'à 16 heures, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 16 heures avec l'équipe du Monde Diplomatique. Comme chaque mois, on retrouve le mensuel Le Monde Diplomatique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et beaucoup de sujets sur l'identité nationale, sur la gauche américaine, sur Haïti, sur la Colombie, sur Tlemcen. On ira faire un tour à Tlemcen. Que se passe-t-il à Tlemcen? L'Afrique aussi, les élections du Togo approchent. Et puis on s'intéressera aussi à Terra Nova. Figurez-vous qu'on a un think tank en France. Mais oui, comme en Amérique, comme là-bas, comme à Washington. On a, voilà, c'est quelques sujets parmi ceux de ce mois-ci que vous pouvez lire dans le Monde Diplomatique. Je me demande si on a d'autres messages à vous faire entendre ou bien si on va directement... Oui, d'autres messages. Je regarde mes camarades qui sont assez affolés avec tous ces trous dans l'antenne. Ok, donc on retrouve l'équipe du Diplo et auparavant encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés, vous avez tenté de laisser en tout cas dans la boîte vocale de la Bastille. Je suis au 01 56 40 37 37.
Voilà, je voudrais faire une petite clarification toute modeste. Nous ne voulons plus travailler plus, nous voulons travailler moins, travailler mieux et travailler ensemble pour faire cesser l'horrible propagande néolibérale qui matraque 24 heures sur 24 les cerveaux disponibles sur cette crise provoquée par les marchés financiers qui, avec leurs bénéfices records d'année en année, peuvent payer les orgies de leur débauche totalitaire. Que les Français se laissent berner par la propagande selon les sondages est une vérité d'une tristesse épouvantable. 35-37 ans de cotisation en situation de plein emploi avec taxation des fortunes colossales devraient suffire. Grosse bise à tous, au revoir.
Salut Daniel, salut à tous. Moi j'ai une réflexion quant à l'âge de la retraite, là, du départ à la retraite, là, parce que il se fait que c'est l'État qui décide d'élever l'âge de départ à la retraite. Je trouve fort de café que l'État, s'il n'est pas capable d'assurer le plein emploi à tous, puisse se permettre de bouger l'âge du départ à la retraite. Et qu'on ne vienne pas me dire que seuls les meilleurs connaissent le plein emploi. Parce qu'actuellement, dans le pays, il doit y avoir 100 meilleurs pour une place.
Salut l'équipe de là-bas, barcelonaise, barcelonais, altermondialiste et francophile de Barcelone. On continue sur notre lancée avec le Café Repère Barcelonais numéro 4 qui sera consacré au thème des médias. On se retrouvera ce mardi 16 février dans un nouveau café, le Glaciar, au 3 de la Place Réal à 20h. On parlera des médias de masse, de leur lien avec le pouvoir dominant, des gratuits du métro, mais aussi et surtout des médias alternatifs, indépendants et des nouveaux médias d'Internet. On se demandera s'il est utopique, pertinent ou urgent de créer nous-mêmes un média alternatif ici, à Barcelone, un média à notre image, celui qu'on aimerait lire, voir ou écouter. On en profitera d'être réunis pour discuter aussi du No Sarkozy Day du 27 mars prochain. Est-ce qu'on l'organise à Barcelone? Et si oui, de quelle manière et avec quel message? Le prochain repère barcelonais, ce sera donc mardi 16 février, à 20h, au Glaciar, chez Alfredo, au 3 de la Place Réal. Portez-vous bien et continuons à résister au quotidien. À mardi.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour là-bas si j'y suis. Ici les enseignants du collège Jean Vigo à Épinay-sur-Seine. Ça fait une semaine qu'on fait des actions et des jours de grève. L'année prochaine, on perd des postes d'enseignants, au moins 4, et les classes seront plus chargées. À l'inspection académique, on nous explique que c'est normal. Le collège Jean Vigo est un établissement classé ZEP, ça signifie normalement zone d'éducation prioritaire, et il semblerait que la priorité en ce moment soit de supprimer le maximum de postes en un minimum de temps. On serait tardé dans ces cas-là à devenir une zone d'éducation pathétique, la tournure que prennent les événements. Bref, nous ne sommes pas contents et nous occupons le collège lundi 15 février. Bon courage à vous tous.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Laurent Bazin, Serge Halimi, Christophe Warigny, Maurice Lemoine, Jean-Pierre Sérigny, Anne-Cécile Robert et Laurent Bonelli. Le Monde Diplomatique, pas si diplomatique que ça. Flight number 2. Voilà, et nous voilà avec le numéro du mois de février du Monde Diplomatique. Et on va commencer par Laurent Bonelli. On se demande, quand on entend nos hommes politiques discourir, où vont-ils chercher tout ça? Où vont-ils chercher toutes ces idées, ces concepts, ces contestations, ces grandes perspectives qu'ils nous ouvrent? Eh bien, vous nous donnez une piste, là. Vous nous donnez un peu une idée de ce qui les inspire, de ceux qui les inspirent. On a aussi, nous, en France, maintenant, des think tanks, c'est-à-dire des boîtes à idées. Et vous faites, pas vous exactement, un auteur américain, états-unien, Alexandre Zevin, fait le portrait d'une boîte à idées française, Terra Nova. Laurent Panelli, on vous écoute.
Oui, alors je crois que on a entendu beaucoup parler de Terra Nova, précisément en août 2008, qui a fait une très très forte campagne sur la question des primaires à la française, pour que précisément la gauche enfin désigne ses candidats pour l'élection présidentielle notamment, avec des primaires. Et alors on ne sait pas si on a beaucoup de think tanks à la française, mais en tout cas, on a entendu beaucoup à ce moment-là qu'il en existait un, et qu'en fait, la gauche, pour une fois, avait enfin une boîte à idées, enfin une perspective idéologique nouvelle, qui était Terra Nova. Cette fondation. Et ça semblait intéressant parce que le grand public n'en a pas forcément entendu parler, les journalistes en ont énormément entendu parler puisque Terra Nova abreuve notamment le monde médiatique d'un certain nombre de notes, tout simplement de demander à quelqu'un de travailler sur cette question. Et c'était toujours intéressant de décentrer le regard, donc on a demandé à un historien américain qui est un spécialiste de la question des idées, donc de l'Université de Californie, qui a donc rencontré un certain nombre de gens qui sont à la fois des acteurs de Terra Nova, des gens qui pourraient utiliser les aides de Terra Nova, et ce qui est livré dans ces pages, c'est le résultat finalement de cette enquête. Alors, c'est tout à fait intéressant, puisque Terra Nova s'est présenté pendant très longtemps comme l'instrument intellectuel de refondation de la gauche. Voilà, finalement, la gauche socialiste telle qu'elle existait, grosso modo, depuis la révolution industrielle, tout cela s'est terminé, aujourd'hui, il faut faire des choses nouvelles, la gauche, c'est autre chose. Avec un modèle qui est immédiatement revendiqué par les fondateurs de Terra Nova, dont le président, Olivier Ferrand, et de dire, voilà, nous, on allait chercher aux États-Unis, parce que les États-Unis, en matière de think tank, ils savent y faire, et en matière de think tank progressiste, plus encore. La preuve, Obama, et ils vont donc se tourner vers le principal think tank qui a soutenu Obama, qui est notamment le CAP, qui est le Center for American Progress. Ils vont dire, nous, c'est le Center for American Progress à la française, grosso modo.
Comme Johnny Hallyday et le rock'n'roll un peu.
Comme Johnny Hallyday et le rock'n'roll, et je crois que l'image est assez bonne, sauf que je pense que Johnny Hallyday a du talent, et malgré tout. Et je crois que là, on est là-dessus, c'est-à-dire c'est assez simple, puisqu'on va voir le CAP, c'est 120 chercheurs permanents, on a Terra Nova, c'est 3. C'est 3, et puis c'est pas des chercheurs, c'est un chargé de pub, un chargé de communication, et voilà, bon.
C'est un petit pays.
C'est cela, et effectivement, et puis ça fonctionne, comme le dit Maurice, avec des stagiaires, qui sortent d'HEC, qui sortent de Sciences Po. C'est une production intellectuelle foisonnante, c'est-à-dire c'est des notes, il y a plus de 500 notes qui ont été produites sur tout et n'importe quoi, d'ailleurs avec des notes qui, Sanders et Vine montrent bien que des notes qui se contredisent, un certain nombre de choses qui font ça. Donc ce qui est assez amusant, c'est de voir finalement on a un think tank, grosso modo essaie de se donner les apparences d'un think tank, mais qui ne l'est pas réellement en capacité de produire des idées. Et fondamentalement, c'est ce qui est assez amusant sur ce terrain, c'est de voir comment, si c'est pas un think tank, qu'est-ce que ça a comme fonction? Et cette fonction, on la retrouve pas dans le monde éthéré des idées, comme le dit Zevin, on le retrouve plutôt dans les transformations actuelles du Parti Socialiste. Ce que montre bien Zevin, c'est que, en fait, c'est une entreprise de promotion des jeunes générations du Parti Socialiste. Et jeunes générations, alors de moins en moins jeunes, on parle à d'autres gens comme Manuel Valls, comme Montebourg, comme Peillon, ces gens qui sont finalement dans l'attente d'occuper des places de premier rang au sein du Parti Socialiste, et un Parti Socialiste qui, tel qu'il est construit aujourd'hui, finalement laisse la place à ce qu'on appelait les éléphants, mais c'est-à-dire des gens qui sont déjà aux commandes, je dirais depuis longtemps, et qui ne risquent pas de laisser leur place d'ici peu. Et ce n'est pas un hasard, finalement, si le principal intérêt de Terra Nova, ça a été cette question des campagnes des primaires, c'est ce qui invite à renouveler les élites socialistes, à renouveler les modes de désignation des élites socialistes. Et en fait, c'est ça qui est, je crois, ce qui fait le cœur aujourd'hui de Terra Nova, avec un paradoxe qui n'est pas, à mon avis, le moindre, c'est que Olivier Ferrand, son président, a été présenté dans le sud de la France, alors même qu'il avait été battu dans les primaires du Parti Socialiste, qu'il s'est maintenu contre le candidat local, et qu'au final, c'est l'UMP qui a gagné. Moi, je crois que c'est sur ce point-là qu'on peut terminer.
Commentaire des uns des autres, non? Serge Animi.
C'est-à-dire que la référence aux États-Unis est effectivement assez bonne, parce que depuis les années 80, ceux qui veulent transformer le Parti démocrate dans un sens plus néolibéral et plus conservateur jouent à fond du registre de la génération. Il y en a marre des vieilles générations avec les vieilles idées, il faut des idées nouvelles. Et les idées nouvelles sont très souvent les idées dominantes. Et quand on dit on en a marre des vieilles générations, on veut dire on en a marre de la gauche qui est attachée aux syndicats, qui est attachée aux idées de redistribution sociale. Et il faut intégrer en quelque sorte les thèmes intellectuels du néolibéralisme. C'est bien la preuve de la modernité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en général, les médias font une large place à ces jeunes héroïques audacieux qui, grosso modo, tiennent aux grands moyens audiovisuels le discours qu'ils ont envie d'entendre.
Voilà, on continue avec le diplôme du mois de février. Et je ne sais pas du tout si Terra Nova s'est attaqué à l'identité nationale, mais très probablement, Laurent, oui.
Bien sûr.
Mais ce n'est pas les seuls. Et là, on a un papier sur l'identité nationale. On sait ce que, selon le Canard enchaîné, notre président de la République en a dit, à 2 mois des régionales, c'est un os qu'on donne à ronger aux médias et à l'opposition. On ne parle plus du reste, de la situation économique et sociale, du chômage et de la crise. Voilà à quoi sert le débat sur l'identité nationale, selon le président de la République et selon le Canard enchaîné. Ça, c'est le chapeau de ce papier qui se penche sur l'identité nationale, mais pas seulement dans notre nation à nous, la française, mais dans 2 pays, évidemment, l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire. Évidemment, c'est là où le problème de l'identité nationale se pose, et c'est tout à fait sérieux, Laurent Bazin.
Oui, tout à fait. Donc, vous avez raison de remarquer ce contraste entre la France, la Côte d'Ivoire et l'Ouzbékistan. Il n'y a effectivement rien à voir, sinon que moi-même j'y ai conduit des recherches dans ces 3 pays. Donc rien ne les relie a priori. Mais effectivement, on s'aperçoit que dans les 3 cas, en fait, ce sont des pays qui ont basculé en fait dans une idéologie de l'identité nationale, donc à partir des années 90 pour la Côte d'Ivoire et pour l'Ouzbékistan. Et en apparence, je dirais en apparence seulement, en France, à partir de 2007, avec la formation de ce ministère de l'identité nationale. Et donc, effectivement, l'idée que j'ai voulu transmettre, en fait, dans cet article, c'est que, en étudiant 2 cas tout à fait différents, la Côte d'Ivoire et l'Ouzbékistan, l'idée que j'ai voulu transmettre, c'est que cette idéologie de l'identité nationale, en fait, elle est partout dans le monde aujourd'hui, donc dans des situations qui peuvent être extrêmement différentes, en apparence, extrêmement différentes de la situation française. Et ça, on n'en parle jamais dans les médias français. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, cette question ne concernait que la France. Et effectivement, lorsque des analystes, des experts, des chercheurs, etc., s'expriment sur la question, on entend en général soit des sociologues de l'immigration, soit des historiens de l'immigration, ou encore des historiens du nationalisme, donc qui disent tous des choses extrêmement intéressantes et extrêmement pertinentes, c'est pas la question, mais du coup, qui ont tendance à nous faire laisser croire que d'une part, le problème, c'est bien effectivement l'immigration, que d'autre part, l'identité nationale, c'est quelque chose qui s'est construit avec la nation à la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution française, etc. Or, en fait, on est dans quelque chose que moi, je considère tout à fait inédit. C'est-à-dire qu'on voit très bien que l'identité nationale, ce n'est pas la nation, c'est quelque chose de différent. Et qu'à travers cette invention, en fait, de la notion d'identité nationale...
Récente.
Qui est récente, cette invention donc de la notion d'identité nationale, en fait, s'exprime une forme très particulière de nationalisme qui est entièrement contemporain et qu'on peut voir dans des contextes extrêmement différents comme la Côte d'Ivoire ou l'Ouzbékistan.
Qui repose sur l'idée d'authenticité. Je suis authentiquement ouzbek.
Voilà.
Ou je ne suis pas, ou ceux-là ne sont pas authentiquement ouzbek. Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne le sont pas et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui le sont, quoi. Il y a être dedans ou dehors. On invente des traditions.
Tout à fait. Donc on invente des traditions et on invente surtout une notion d'autochtonie, en fait, qui n'existe pas. Autochtone, c'est-à-dire le premier arrivant, celui qui était sur place quand les autres sont arrivés. Et en fait, dans les 2 cas, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans les 2 cas, en Côte d'Ivoire comme en Ouzbékistan, cette notion d'autochtonie, elle est entièrement nouvelle. Donc c'est quelque chose qui apparaît subitement dans les années 90. Et je pense qu'on peut reprendre exactement la même démonstration en ce qui concerne la France. C'est-à-dire que ce qui se produit aussi, c'est avec ce basculement, cette institutionnalisation de l'identité nationale, en fait, c'est dans un basculement dans une idée d'autochtonie. C'est-à-dire nous étions là avant, avec la construction de la notion de français de souche, si vous voulez, et on voit très bien comment ces débats sur l'identité nationale ont focalisé l'attention sur l'islam comme étant quelque chose d'étranger, en fait, à la République. Et donc, on a là quelque chose qui est aussi de l'ordre de la construction d'une idée d'une autochtonie française qui s'oppose à des gens qui sont venus plus tard, en fait.
Il y a Paris, la capitale, qui renifle son trou de balle. Intramuros, c'est brillant dehors, c'est pour les paysans. D'ailleurs, s'il n'en restait qu'une, ce serait sûrement celle-là, qu'une. Aussi con que la lune et prétentieuse comme il se doit. Mais Paris, ça reste en France, les Français restent les Français. Les chevilles en évidence, le nombril insatisfait. Et oui.
À Reynaud, il fait bon vivre, j'y ai vu, pardonnez-moi. Des masses de foule ivre, des seringues plein les bras. Un soir, une chose amusante sur la route, croyez-moi. La police qui plaisante d'un cadavre sur le toit. Mais Rennes, ça reste en France, les Français restent des Français. Des reins en convalescence, des poumons dans le regret.
Puis à Bordeaux, la bourgeoise, avec son grand cru classé, qu'on déguste dans l'extase, dans les grands lieux new-yorkais, qui indique à sa mémoire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Si pour Papon c'est un trou noir, le Girondin c'est un succès. Bordeaux ça reste en France, les Français restent les Français. Des trouillards de gauche en transe ou des cons de droite muets. À Toulouse, la ville rose, peut-être sont-ils un peu chauvins. Quand ils jacassent pas du rose, ils te parlent des Toulousains. Ils ont un patois bien sûr qu'ils utilisent parfois pour écrire sur les murs d'une usine, plus jamais ça.
Oui, tout ça reste en France, français, c'est pour nous, français. Des caracs, des pétasses sur des rythmes affolés.
Et puis il y a Marseille qui a son port si charmant. Sa Méditerranée belle, sa sardine et ses harangues.
Mais qui est harangue? Ben je parle harangue à Marseille.
C'est pour la rime luxe, un charmant harangue.
Attends, j'en ai une bonne, favouille.
Favouille, ça rime pas, hein?
Attends,
sarang. Ah, sarang, ok, ben on va recommencer, on va essayer. Et puis il y a Marseille qui a son port si charmant. Sa Méditerranée belle, sa sardine et ses sarangues.
Comme
belle.
Un tout petit village, un hameau ensoleillé qui n'a qu'un désavantage.
De Marseillais.
My Marseille à cause de la France, les Français restent des Français, des grandes gueules à qui on pense quand on veut avoir la paix. Après cet air géographe, une petite explication. Je ne cherche pas les baves, je ne cherche pas la baston. Mais lorsque je vois au loin qui agitent leur drapeau, la grande race des chauvins juste à côté des fachos. Bah moi qui suis né en France dans un bled incognito, je ne comprends pas la démence, je ne vois pas les idéaux de ceux qui pensent la naissance comme une attache, un ghetto. Pardonnez-moi cette offense et traduisez-moi ces mots. Issu de la poussière, je m'en retourne à la poussière. Issu de la planète Terre, je m'y promène sans frontières.
Issu de la poussière, on s'en retourne à la poussière. Issu de la planète Terre, on s'y promène sans frontières.
Et merde, on s'y retourne, putain, je suis un con. C'est pas
ah, mais possible. J'ai merdé aussi.
Voilà, on continue avec le diplôme du mois de février, avec un papier d'un journaliste américain de Counterpunch qui s'appelle Alexander Cockburn et qui revient en arrière sur l'histoire des États-Unis, sur l'histoire de Greensboro. Serge Halimi va nous préciser de quoi il s'agit exactement. C'était le 1er février 1960.
Alors, il faut
un cours d'histoire.
Il faut d'abord préciser.
Serge Halimi raconte.
Qu'Alexander Cockburn n'est pas seulement un journaliste américain, ça a été un militant radical qui a été très impliqué dans les combats qui ont été menés depuis maintenant plusieurs décennies, à la fois contre les guerres impériales, pour le mouvement des femmes, pour le mouvement écologiste, le mouvement homosexuel, le mouvement des droits civiques. Et il revient, il célèbre un anniversaire et il en déduit un paradoxe. L'anniversaire, c'est celui effectivement d'une grande date du mouvement des droits civiques aux États-Unis, le 1er février 1960, en Caroline du Nord, à Greensboro, se produit un événement ordinaire. Quatre étudiants s'assoient à une cafétéria. C'est un événement ordinaire, mais c'est un événement extraordinaire, parce que les étudiants sont noirs, et que, contrairement à ce que son nom indique, la Caroline du Nord est un État du Sud, situé entre la Virginie et la Géorgie, un État qui a été esclavagiste et sécessionniste. Bref, le règlement intérieur de la cafétéria en 1960 stipule que les Noirs doivent manger debout. La suite de l'histoire avec un petit H, c'est l'histoire avec un grand H. Le lendemain, les quatre étudiants sont 25, puis le mouvement de désobéissance à des lois racistes s'étend à 15 villes, dans 9 États du Sud. Moins de 6 mois plus tard, la cafétéria capitule en renonçant officiellement à la ségrégation raciste. Et ces événements de Greensboro vont marquer le départ d'une refonte en profondeur de la société américaine. Et c'est là que j'en viens au paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on pourrait être tenté de dire que l'élection de Barack Obama est le prolongement de cette histoire. Or, pour l'auteur, pour Alexander Coburn, c'est en partie le contraire. Le lien, il est évident. Il n'y a pas à contester le fait que si les lois racistes n'avaient pas été abolies, si ce mouvement n'était pas intervenu, un président noir n'aurait pas été élu à la Maison Blanche. En même temps, ce que nous dit Alexander Coburn, c'est que ce président-là, Barack Obama, s'inscrit en rupture avec le type de mobilisation politique, de projet de transformation de la société que portaient les militants des droits civiques dans les années 60. Car en 1960, et dans les 15 ans qui vont suivre, l'ambition générale est une ambition radicale. C'est une période de contagion des soulèvements pour transformer la société américaine de fond en comble. À Berkeley, à peu près au même moment, des étudiants protestent contre le macartisme, puis ils lancent un mouvement pour la liberté d'expression, le Free Speech Movement. 4 ans plus tard, le président Johnson doit signer un ensemble de lois qui interdisent la discrimination raciale, puis ce sont les manifestations contre la guerre du Vietnam, contre l'Empire américain, contre le FBI, contre la CIA. C'est aussi la remise en cause de la société de consommation. Au même moment, c'est l'essor du mouvement féministe, du mouvement gay. Tout paraît devenir possible. Et à l'époque, non seulement tous ces mouvements ne s'opposent pas, mais ils ne se juxtaposent pas en s'ignorant non plus. Ils se répondent et ils s'épaulent. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la contagion des soulèvements. Le mouvement noir est solidaire des Vietnamiens. Les écologistes sont féministes. Les féministes n'ont pas pour principal objectif d'augmenter le nombre de femmes dans les conseils d'administration des multinationales. Et puis, comme vous le savez, cette contagion des soulèvements s'arrête. Le mouvement devient victime de son incapacité à transformer la donne politique et économique, à transformer en quelque sorte leurs aspirations en forces politiques. Ces diverses tendances, qui au départ sont très radicalement opposées au Parti démocrate, deviennent absorbées par ce Parti démocrate et ont une perspective qui est de plus en plus celle de faire élire un démocrate qui sera plus sensible aux revendications des féministes, des gays, des écologistes, que les autres. Mais pas du tout à transformer la société américaine. Vous avez des fondations privées qui vont remplacer le militantisme pour faire survivre diverses chapelles progressistes et qui naturellement vont subordonner leur injection de fonds dans ces chapelles progressistes à une inflexion modérée de la ligne de ces mouvements.
Ford, Rockefeller, etc.
Vous avez des chapelles progressistes qui vont de plus en plus se consacrer à contempler leur propre nombril ou bien leur site internet. Vous avez des activistes qui vont faire du lobbying. Vous avez des syndicats qui vont dépérir, mais qui vont, en même temps qu'ils dépérissent, devoir soutenir des présidents démocrates favorables au libre-échange qui provoquent leur dépérissement à eux syndicats. Bref, vous avez des tas d'organisations qui décident qu'il ne faut pas faire la politique du pire et donc qu'il faut élire coûte que coûte des démocrates et qui, parce qu'ils ne veulent pas faire la politique du pire, se résignent à ce que les choses empirent, mais plus lentement. Et c'est ce que veut, en quelque sorte, expliquer Coburn dans son article. Et il dit, voilà, on en est à la situation actuelle, alors que la guerre en Afghanistan s'intensifie, le désir de ne pas gêner le président démocrate, de ne pas gêner Obama, est tel qu'il n'y a pas de mouvement anti-guerre comparable à celui qui, il y a environ 50 ans, s'opposait à une autre guerre, amplifiée par un autre président démocrate, Lyndon Johnson, c'était la guerre du Vietnam. Et ne subsiste en quelque sorte de ce grand mouvement d'autrefois, solidaire, radical, qui voulait transformer la société américaine, que quelques groupuscules sans argent, les autres ayant été absorbés par le Parti démocrate. Et Coburn estime que cette évolution d'ensemble tient évidemment beaucoup à la transformation de la nature du système politique américain, dans lequel le poids de l'argent et le poids du marketing n'ont cessé d'augmenter, mais que ça tient aussi au déclin des formations révolutionnaires, inspirées par une idéologie marxiste, qui avait certes beaucoup de défauts, mais qui avait une qualité, c'est qu'ils enseignaient aux jeunes militants les rudiments de l'économie et la discipline d'une organisation. Pour lui, je le cite, « cette déliquescence des cultures de gauche a contribué à l'émergence de générations peu formées au débat d'idées, ignorantes des leçons de l'histoire et accueillantes envers toutes les paranoïas. Quand on ne peut pas expliquer les choses rationnellement, on les présente comme produites par des complots, des conspirations. » Et alors, il y a une phrase de Nizan à laquelle on pense quand on lit le papier de Coburn, en tout cas à laquelle moi j'ai pensé, qui dit « n'hésitez pas à demander la Lune, il nous la faut ». Eh bien, pour Coburn, il n'y a plus assez de gens qui demandent la Lune aux États-Unis, il n'y a plus assez d'étudiants qui, un matin, soudain, remettent en cause un siècle de ségrégation, alors que tout le monde leur dit que cette ségrégation est installée pour l'éternité. Et en ce sens, nous dit-il, le bilan décevant de la première année au pouvoir d'Obama représente non pas l'héritage de Greensboro le 1er février 1960, mais le produit de l'oubli de Greensboro depuis.
Dek nahi dunia mumkin. En français, c'est un autre mot impossible. En tamoul, on dit un autre mot impossible.
Ok, on continue avec le diplôme de février. Anne-Cécile Robert, on va se référer à la même époque que celle évoquée par Coburn et Halimi réunis. 1960, je me souviens d'une phrase prononcée par le général de Gaulle. S'ils veulent leur indépendance, qu'ils la prennent. Il s'adressait aux Africains à l'époque, d'Afrique noire. Alors, 50 ans après, des élections un peu partout en Afrique, notamment au Togo, et que sont devenues ces démocraties africaines? Vous avez 3 minutes.
Oui, il nous a semblé important de parler de la situation politique en Afrique, parce que l'actualité est souvent foisonnante et inquiétante. Hein. Encore hier, le président ivoirien a dissous le gouvernement de coalition, et on sait qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire depuis 5 ans. On a eu le coup d'État en Guinée, qui est très inquiétant, parce que la Guinée est un pays géopolitiquement important pour l'Afrique de l'Ouest. Donc on a une situation politique en Afrique qui est troublée, et on a voulu revenir là-dessus parce que on a souvent une vision dépréciative de ce qui se passe en Afrique. On regarde les événements, on se dit tout va mal, donc c'est parce que les Africains n'arrivent pas à se débrouiller. Donc il est important d'essayer de comprendre, d'analyser, pour montrer que ce qui se passe en Afrique a des causes et pas la faute des Africains qui sont toujours des incapables.
Ça regarde Monsieur Guénaud, donc vous.
Par exemple, si vous nous provoquez, évidemment, Daniel Mermet, on va répondre. Parce que vous faisiez allusion à l'anniversaire des indépendances. Il y a un comité de commémoration qui est monté à Paris avec Jacques Toubon. Nicolas Sarkozy va inviter des chefs d'État, peut-être pour le 14 juillet. Bon, et tout ça va cohabiter avec les ingérences françaises à Madagascar, au Gabon ou au Togo. Donc les paradoxes ne sont pas terminés. Donc dans cet article de synthèse que j'ai fait dans le numéro de février, j'ai voulu essayer d'expliquer cet apparent chaos qu'il y a en Afrique aujourd'hui, et qui n'est qu'apparent, parce que il y a quand même des progrès qui ont été réalisés depuis les indépendances et depuis la fin de la guerre froide. Par exemple, il y a quasiment plus de régime à parti unique. Il y a des élections à peu près partout. Les oppositions sont reconnues. Même la lutte contre la corruption, qui est un sujet sensible, fait des progrès. En revanche, il y a effectivement des tendances régressives aujourd'hui, parce qu'il y a une partie des dictateurs, parfois soutenus par la France, qui ont trouvé le moyen de se mettre.
Mais là, on est en train de parler de la France-Afrique.
C'est un élément important qu'on ne peut pas, en faire l'élément unique d'explication, mais c'est un élément important. Comment voulez-vous démocratiser des pays s'il y a en permanence des ingérences étrangères? Et on sait très bien que la France, par ses réseaux économiques, diplomatiques et politiques, soutient des régimes comme au Tchad, au Togo, au Gabon, qui maintiennent des potentats au détriment des populations et souvent contre la volonté des populations. N'oublions pas que, par exemple, en 1990, c'est une intervention militaire de la France qui a permis au président gabonais Omar Bongo, le très regretté, qui nous a quittés l'année dernière, de se maintenir alors qu'il avait été battu aux élections. Donc ça, effectivement, quand on juge la situation politique en Afrique, il faut se rappeler qu'il y a toujours ce phénomène auquel il faut ajouter, bien sûr, la domination économique. Parce que quel est l'intérêt pour les Africains d'aller voter, quelque part, si les décisions, les grandes décisions de politique économique et sociale sont prises à Washington ou à Bruxelles? Et on sait très bien qu'aucun président africain ne peut être élu s'il n'a pas l'aval des institutions financières internationales. Donc tout ça délégitime les processus électoraux. Et il y a un penseur togolais qui s'est interrogé, est-ce qu'on peut démocratiser des pays dominés de l'extérieur ? Donc c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de véritable souveraineté, la démocratie est un leurre ou une illusion. Mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que malgré ces difficultés importante, les sociétés africaines évoluent, les populations se mobilisent, alors parfois à minima en essayant de tirer leur épingle du jeu, hein. Par exemple, certains habitants au Mali ou au Burkina, ils vont se laisser doucement corrompre en se disant c'est vaut mieux ça que rien. Mais plus positivement, on voit beaucoup d'associations se créer, des associations de défense des droits de l'homme, des mouvements sociaux, les syndicats se battent énormément pour essayer de déjouer tous les mécanismes de domination et de transformer, de rendre réelle la démocratie. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est aussi les jeunes générations. Bon, c'est un peu un lieu commun de dire les jeunes vont tout changer, mais il y a vraiment une rupture de génération aujourd'hui en Afrique. Les jeunes qui n'ont pas connu la colonisation, justement, qui sont nés après les années 60, qui vivent avec les nouvelles technologies, malgré les coupures d'électricité, qui vont sur Internet, qui créent leur blog, etc., ils ne s'en laissent plus compter. Ils ne se sentent pas redevables des anciens colonisateurs, comme les générations précédentes. Ils ont envie d'avoir leur part du gâteau, ils ont envie de profiter de la vie, et ces jeunes se mobilisent, contournent les mécanismes de domination traditionnels pour essayer de changer les choses. Donc on peut avoir un espoir mesuré, mais raisonnable.
Jean-Pierre Serigny, dans le diplôme de ce mois de février, vous faites un portrait de Tlemcen. Et c'est surprenant parce qu'on ne voit pas du tout pourquoi. Et c'est ça qui est bien. Il ne se passe rien de particulier à Tlemcen. Il n'y a pas d'anniversaire. Il n'y a pas de catastrophe. On va parler de catastrophe à Haïti. Il n'y a rien de particulier. Vous faites un portrait comme ça, tranquille, d'une ville qui évolue sous l'emprise d'un tas d'éléments. Mais enfin, c'est assez calme comme portrait.
Quand on parle de l'Algérie, on évoque plus souvent le régime, la politique, les institutions et presque jamais les Algériens. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est une plongée dans l'Algérie profonde, en allant non pas à Alger, c'est à peu près la partie la plus riche et la plus connue d'Algérie, mais en province, dans le bled, à Tlemcen, qui est une ville à côté de la frontière marocaine, qui est fermée maintenant depuis 15 ans. Enfin, la frontière est officiellement fermée, mais elle est poreuse pour tous les trafics possibles, dont le trafic de drogue, dont on peut dire deux mots. Et donc, si vous voulez, Tlemcen, c'est à la fois dans l'imaginaire algérien une ville importante, parce que c'est la ville la plus islamique. 75% du patrimoine architectural islamique algérien est à Tlemcen. Il faut voir que l'occupation française a démoli les villes traditionnelles. Donc, de ce point de vue-là, c'est un point de repère important. Et l'autre aspect également important, c'est que Tlemcen est, si vous voulez, parmi les élites algériennes qui viennent après l'indépendance, la ville qui en a fourni le plus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plusieurs institutions d'éducation, en particulier un institut franco-musulman qui avait une double culture, à la fois française et arabe, et qui a formé les premiers cadres de l'Algérie indépendante. Donc, toutes ces raisons font qu'on s'est intéressé à Tlemcen, où effectivement, il ne se passe rien, mais ce qui s'y passe est représentatif de ce qui se passe en Algérie, c'est-à-dire, d'une part, l'urbanisation absolument fantastique. Tlemcen, en 1962, au moment de l'indépendance, c'est 50 000 personnes. Aujourd'hui, c'est entre 250 000 et 300 000 personnes. Donc imaginez, on est passé d'une sous-préfecture à une ville de l'importance de Bordeaux. Deuxième chose, c'est que c'est une ville qui s'est dotée d'une université considérable, 38 000 étudiants, une des plus grosses universités, même à l'échelle française, et que dans cette université, on a une présence des filles qui est absolument étonnante, puisque en gros 60% des étudiants sont des étudiantes, qu'au niveau des diplômes, les trois quarts des diplômés sont des étudiantes, tout ça dans une ville et dans un pays où la tradition est très forte, où la culture religieuse est également très forte, c'est vraiment le centre de la vie sociale. Et donc comment va se passer l'insertion de cette génération féminine diplômée dans la société algérienne, c'est une des questions qui faisait que Tlemcen pouvait être intéressant de ce point de vue-là, et c'est ce qu'on a cherché à voir.
Quelle est la place de l'islam politique à Tlemcen? Quelle est la place de l'islamisme? Que sont devenus les radicaux?
Alors le régime ne permet pas de voir à l'œil nu et de façon claire l'importance politique de l'islamisme. Cela dit, les discussions qu'on peut avoir avec les gens montrent que si demain il devait y avoir des élections en Algérie, c'est évidemment les islamistes qui gagneraient les élections. Mais quels islamistes? Si on prend par exemple l'histoire de Tlemcen. Tlemcen, c'est une ville, comme je l'ai dit, où il y a eu un boom démographique considérable. Donc vous avez deux populations. Vous avez la population d'origine, ce que j'appelle les notables, c'est-à-dire les gens qui étaient là avant 62 et qui étaient là depuis plusieurs centaines d'années, qui sont des familles importantes, qui ont fait des études, qui ont amassé du bien. Et puis d'autre part, vous avez les gens qui viennent de la campagne, qui sont arrivés en deux vagues. Une première vague du temps de la guerre contre les Français avec les camps de regroupement. On a vidé les campagnes pour mettre les paysans dans les camps de regroupement pour qu'ils ne puissent pas aider le FLN. Et puis deuxième vague d'arriver dans les villes, c'est la guerre civile des années 90, et donc aujourd'hui quand vous baladez dans la campagne dans l'Oranie, elle est vide, il n'y a pas de village, les gens sont partis, l'agriculture est en déshérence. Donc si vous voulez, ces deux populations qui cohabitent dans la même ville, il est intéressant de voir comment politiquement elles peuvent se mettre ensemble. Et ce qu'on a vu dans les années 90, c'est que le fils évidemment a gagné les élections municipales à Tlemcen, mais qu'il a choisi comme maire un notable. Et donc, si vous voulez, c'est un peu cette articulation entre les notables d'hier et les néo-citadins d'aujourd'hui que peut sortir une équation politique nouvelle. Mais pour ça, il faudrait que le régime change. Et dans le papier, on explique bien l'emprise du régime sur la ville à travers le Wali et à travers le fait que l'argent vient d'Alger. L'argent, c'est l'argent du pétrole, bien sûr.
Christophe Warny a appris dans le Canard enchaîné que Arnaud Klarsfeld avait rapporté un chat d'Haïti. Il avait été chargé par le président de la République d'aller en Haïti secourir ces pauvres Haïtiens, et on a appris qu'il avait ramené un chat. C'est le chat de l'ambassadeur de France qui était très très contrarié que son chat n'ait plus de cage, et donc voilà, c'est la mission d'Arnaud Klarsfeld. Vous n'avez pas forcément rapporté les mêmes impressions ni le même regard sur Haïti.
Non, alors c'est vrai que tout le monde a pu voir les images d'Haïti depuis un mois, et le séisme d'origine géologique. Ce qu'on a cherché à montrer nous, c'est que bien sûr il y a un séisme qui a fait 200 000 morts, mais l'essentiel de ce qui concerne, de ce qui touche Haïti, c'est un séisme social et politique qui dure depuis 2 siècles. Et ce pays est victime de son histoire et de sa géographie, peut-être davantage que de sa géologie. Bon, de son histoire, c'est un pays qui a 2 siècles d'indépendance, mais qui a été mis en quarantaine. En effet, comment est-ce que les Occidentaux auraient pu accepter que les troupes de Napoléon Bonaparte défaites sur place, tout ça ne mérite pas une gigantesque punition. Donc un pays qui a été puni pour avoir été la première République noire et pour avoir chassé l'Occident et pour donner au monde un exemple que le 19e siècle colonialiste ne pouvait évidemment pas accepter.
L'histoire qui est que la France a contraint Haïti a versé au trésor français une somme considérable en échange de son indépendance, sinon la France revenait. C'est bien ça le scénario.
Oui, il y avait effectivement le risque que la France revienne. Ce risque était peut-être majoré par les élites haïtiennes. Bon, la société post-coloniale haïtienne a très vite ressemblé à la société coloniale, avec une élite formée des mulâtres et des généraux de la noire de l'armée victorieuse, et un peuple, disons, qu'on appelle souvent un pays en dehors, donc qui n'a pratiquement aucun droit. Et effectivement, pour acheter leur tranquillité, les élites haïtiennes ont payé une somme considérable que les nouveaux émancipés ont dû effectivement fournir. Et tout au long du 19e siècle, tous les régimes français, république, monarchie, empire, prendront l'argent d'Haïti. Et bien sûr, dans le même temps, ce qui sera dépensé pour indemniser les colons, puisqu'il s'agissait d'indemniser les colons de la perte de leurs esclaves, ce qui sera dépensé là, évidemment, ne sera pas possible à utiliser en matière d'investissement. Et la révolution industrielle, qui touche les deux rives de l'Atlantique, évidemment, est tout à fait ignorée dans un pays qui est ostracisé. Alors ça, c'est un petit peu pour la géographie. Mais pour l'histoire, ce pays vit dans l'arc Caraïbe, c'est-à-dire dans une zone qui est une zone, disons, plus américaine que n'importe quelle zone de l'ensemble de l'hémisphère ouest, comme disent les Américains. Et disons, après avoir racheté l'indépendance à la vieille Europe, les Haïtiens vont subir le joug des Américains. On peut dire que le 20e siècle et le début du 21e est une période d'invasion ou d'intervention permanente. Bon, le pays sera colonisé par les Américains une trentaine d'années au début du siècle. Et ensuite, disons, un certain nombre d'interventions américaines, parfois avec l'aide des Français ou d'autres puissances, bon, vont intervenir. On est à la 3e intervention cette année en 16 ans. On dit souvent en Haïti et en créole, c'est blanc qui décidait. Et c'est effectivement les Haïtiens du peuple, comme les dirigeants, savent très bien que les décisions ne leur appartiennent pas et que c'est l'Américain qui décide constamment à leur place.
Donc tout ça fait que face à cette catastrophe, la catastrophe est amplifiée par toute cette histoire et toute cette misère.
Oui, on peut dire que la catastrophe ne manifeste pas du tout une fatalité ou une malédiction qui frapperait Haïti. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que la malédiction qui a été jetée par les Occidentaux sur ce pays voilà 2 siècles et qui s'est perpétuée même dans les dernières années où effectivement l'aide correspond souvent à une coopération de l'offre, mais jamais de la demande. Et les institutions internationales sont absolument les maîtres de l'économie haïtienne, ou de ce qu'il en reste, puisqu'il s'agit d'une économie informelle, exsangue. Et aujourd'hui, Haïti a à faire face à un défi énorme, mais qui paraît devoir lui échapper complètement.
Que font les États-Unis en Haïti? Est-ce que c'est une aide, un secours? Ou bien est-ce que c'est une occupation qui peut durer, qui peut perdurer?
Alors il est un peu tôt pour faire des hypothèses. C'est vrai qu'on aurait probablement reproché aux Américains de ne pas être intervenus sur le plan humanitaire, puisqu'ils sont tout près et qu'ils bénéficient d'une force logistique énorme. Mais c'est vrai que...
Ils ont aussi très très peur d'une immigration massive.
Bien sûr, c'est vrai que outre la doctrine Monroe, l'une des constantes de la politique américaine, c'est éviter une implosion dans l'île qui aurait des ramifications population dans l'ensemble de l'arc Caraïbe et qui jetterait des dizaines de milliers de boat people sur les côtes de la Floride. Et c'est vrai que là, la politique américaine est probablement constante. Clinton avait fini par intervenir une deuxième fois parce qu'il craignait ce flux de boat people. Aujourd'hui, on peut effectivement penser que ça n'est pas sans jouer un rôle important que cette peur d'un foyer d'incertitude et d'une migration incontrôlée.
C'est le projet de beaucoup d'Haïtiens de partir et d'aller vers des cieux plus cléments, les Antilles françaises par exemple, ou bien effectivement la Floride.
Oui, bon, c'est vrai qu'il y a probablement 3 millions d'Haïtiens qui vivent à l'extérieur, 9 millions à l'intérieur, c'est donc une diaspora très importante, qui d'ailleurs est une de celles qui apporte le plus, disons, au pauvre produit national brut haïtien. L'apport de la diaspora est parmi les 4 ou 5 les plus importants dans le monde. Et bon, c'est vrai qu'ils sont aux États-Unis, au Canada, dans les Antilles françaises ou en République dominicaine, et que leur rôle pourrait d'ailleurs dans la reconstruction être important.
Un fil barbelé qui va t'écorcher.
On continue avec le diplôme. On va pas très loin. On était en Haïti. Là, on va en Colombie. Finalement, c'est quelques kilomètres. Et il y a peut-être des parallèles à faire. Je ne sais pas si Maurice Lemoine va les faire. En tout cas, Maurice est très inquiet de l'apparition de bases militaires en Colombie.
Oui, il y a des parallèles à faire dans la mesure où on va parler de bases militaires américaines en Colombie et qu'on a quand même constaté qu'en Haïti, les États-Unis ont dépêché 10 000 militaires, hein, dont 4 000 au sol ou 4 500 au sol en ce moment, et puis beaucoup en mer. Avec, en relation sans doute avec ce que le sujet que vous venez d'aborder. Bon, alors c'est vrai qu'il y a un autre phénomène en Colombie. En octobre dernier, le ministre des Affaires étrangères colombien et l'ambassadeur américain viennent de signer un nouvel accord qui a été concocté en secret. Personne n'a été tenu au courant, qui octroie aux États-Unis, pour une période de 10 ans renouvelable, 7 bases à l'intérieur de la Colombie pour en finir avec le narcotrafic et la guérilla. Bon. Normalement, face à un adversaire composé d'irréguliers, hein, et puis pour détruire des plantations de coca, puisque c'est la base de la cocaïne, on a l'impression que la force déployée par Washington est un petit peu disproportionnée. Hein, c'est en gros, c'est un marteau, une enclume pour en finir avec des moustiques. Donc, la question qui se pose dans la région, et pas uniquement chez les gouvernements considérés.
Que font-ils là? Quand on songe à la proximité avec le Venezuela, on répond...
Il y a un problème. Il y a un problème, et non seulement vous parlez du Venezuela, parce que Chavez a la réputation qu'il mérite parfois, mais enfin en même temps qu'il doit être un peu impropre, c'est que des gouvernements aussi raisonnables, entre guillemets, que Lula au Brésil, que la Bolivie, que l'Argentine, tout le monde est inquiet de la présence des Américains. Figurez-vous que sur la simple base de Palenquero, il y a 31 millions d'euros qui vont être investis pour permettre à la piste de 3500 mètres d'accueillir des avions C-17, c'est les énormes galaxies, vous savez, qui peuvent emporter 70 tonnes de matériel, qui ont une autonomie de 8000 kilomètres. Je veux dire, pour en terminer avec la guérilla colombienne, ça paraît un petit peu beaucoup. Et puis, de la base d'Apia, ils vont opérer les AWACS, qui sont des avions de reconnaissance, qui sont des avions dotés de radars à grande portée. Donc tout à fait légitimement, les gouvernements de la région s'inquiètent. Les États-Unis ont déjà des bases. Alors, comme ils savent que le mot « base » en Amérique latine, ça dérange, ça titille, compte tenu de l'histoire des relations entre le Nord et le Sud, ça s'appelle pas des bases, ça s'appelle, alors en anglais, des « forward operation locations », hein, des FOL, c'est d'ailleurs des postes d'opération avancés, hein, le mot « base » n'est pas utilisé, et puis des « cooperative security locations », c'est-à-dire là, c'est des postes coopératifs de sécurité. Et il y en a déjà pas mal, hein, il y en a déjà pas mal, puisque on en a à Comalapa au Salvador, on en a à Soto Cano au Honduras, où vous êtes allé récemment, on a une base à Guantanamo, Guantanamo, à Cuba, on en a à Roosevelt Road, à Porto Rico, on en a en Aruba et Curaçao. Enfin, je veux dire, on en a un peu partout, à Iquitos et Nanay au Pérou, au Costa Rica, à Liberia. Il y avait déjà trois bases avec présence américaine en Colombie. Et puis Manta Équateur.
Bon, on se sent en sécurité.
Hein, donc, on se sent en sécurité partout. Il se trouve que les États-Unis ont eu quelques petits problèmes, puisque la base de Porto Rico, Roosevelt Road, a été fermée à la suite de manifestations des habitants de Porto Rico, dans l'île de Vieques. Le Brésil, qui est sollicité depuis très longtemps, refuse de céder une base aux Américains à Alcantara, qui est une zone géostratégiquement très importante. Et puis, dernière contrariété, le président Rafael Correa, en Équateur, a fermé la base de Manta. Il n'a pas renouvelé la concession. Et donc, les bases en Colombie, évidemment, viennent remplacer ces différentes pertes. Les États-Unis, Washington et Bogota assurent la main sur la Bible, qu'il n'est pas question d'utiliser ces bases pour des opérations qui iraient au-delà de la Colombie. Sauf qu'on a un document, qui n'est pas un document secret, hein, qui est un document qui est public, et évidemment c'est lui qui va révéler le dessous de l'opération. En mai 2009, pour obtenir le financement de la base de la réfection de la base de Palenquero, le département de la Défense a soumis au Congrès, donc d'une manière tout à fait publique, un document qui précise, là je vais ouvrir les guillemets et je vais lire, le développement de cette CSL, donc de cette base, hein, je traduis rapidement, fournit une opportunité unique pour un spectre complet d'opérations dans une sous-région critique de notre hémisphère où la sécurité et la stabilité sont sous la constante menace d'insurrections narcoterroristes, de gouvernements anti-américains, là c'est moi qui souligne, hein, d'une pauvreté endémique et de constants désastres naturels. Donc on ne saurait mieux dire que les bases ont pour objet d'effectuer des missions de renseignement sur l'ensemble de l'Amérique du Sud, de déployer des troupes américaines dans une région qui effectivement, depuis l'apparition de gouvernements de gauche tels que ceux de Chavez au Venezuela, Correa, Evo Morales, même Lugo au Paraguay, et éventuellement d'effectuer des opérations ouvertes ou clandestines en direction de ces pays. C'est la raison pour laquelle ces pays, et non pas uniquement le Venezuela de Chavez, ont demandé des explication à Washington. Ils se sont vus opposer à un refus.
Et la suite, c'est dans le monde diplomatique de ce mois-ci. Merci Maurice Lemoine, Christophe Warny, Jean-Pierre Sérigny, Anne-Cécile Robert, Laurent Bonelli, Laurent Bazin et Serge Halimi. Julien Dumont et Christophe Lucluse étaient à la technique aujourd'hui. Coyen Guyenne et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebotte et Catherine Pinto. Attends vos messages au répondeur de la Bassigio au 01 56 40 37 37. Il est 16h15 sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la Basse. J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Claire Briguet-Lamarre. Salut!
Le roi de Belgique est attendu ce soir à Halle, dans la banlieue de Bruxelles, après la catastrophe ferroviaire de ce matin, l'une des plus meurtrières de l'histoire du royaume. Deux trains sont entrés en collision. Il y aurait au moins 12 morts, mais le bilan devrait encore augmenter. On compte 150 blessés également. Il était 8h30 ce matin quand l'accident s'est produit, en pleine heure de pointe, donc, et le trafic est du coup complètement interrompu entre la France et la Belgique. Une escroquerie absolue pour les Verts. Un simulacre de négociation pour les socialistes. Le sommet social ne satisfait pas grand monde. Pourtant, à l'Élysée, on joue l'apaisement avec les partenaires sociaux. Pour Nicolas Sarkozy, l'enjeu est de rassurer les syndicats sur la question des retraites notamment. Et mesure symbolique, l'allocation équivalent retraite sera reconduite exceptionnellement cette année. Elle est versée aux seniors au chômage qui ne peuvent pas partir en retraite malgré tout leur trimestre de cotisation. Mais rien concernant les chômeurs en fin de droit. Un texte de loi sur les retraites sera présenté à l'automne, a dit le chef de l'État. Les salariés de l'usine Philips à Dreux ont voté une action judiciaire contre leur direction. L'usine a fermé ses portes ce matin, mais les 212 employés ne l'ont appris que samedi par lettre recommandée. Ils dénoncent donc les méthodes de voyous de la direction. Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie, a annoncé qu'il allait recevoir les syndicats et la direction de Philips cette semaine. Un élève a été blessé à coup de cutter aujourd'hui au lycée Guillaume Apollinaire, c'est dans le Val-de-Marne. Voilà qui relance évidemment la question de la sécurité dans les établissements scolaires. Et justement, au lycée Adolphe Chériot à Vitry-sur-Seine, c'est toujours le statu quo. Les négociations entre les profs et le ministre de l'Éducation nationale sont dans l'impasse. Les profs de cet établissement entament leur deuxième semaine de mobilisation après l'agression d'un élève par une bande venue de l'extérieur. Deux manifestations sont déjà prévues pour cette semaine. À un mois pile des régionales, les listes sont maintenant closes depuis ce midi et déjà se profilent les règlements de compte. Au PS par exemple, avec le cas du Languedoc-Roussillon et la candidature dissidente de Georges Fraîche, 50 candidats pro-Fraîche sont désormais considérés comme tout simplement en dehors du parti. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure l'entourage de Martine Aubry. La Commission européenne demande des explications à la Grèce et le dialogue s'annonce plutôt compliqué puisque le ministre grec des Finances s'oppose à toute nouvelle mesure d'économie budgétaire. Pourtant, les ministres des Finances de la zone euro sont en ce moment à Athènes pour tenter de comprendre par quelle manœuvre la Grèce a-t-elle réussi à dissimuler l'ampleur de sa dette pendant des années. Et puis on scrute le ciel à Vancouver où on attend impatiemment la descente masculine en ski alpin si la météo le permet. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes plutôt gâtés puisque la France a déjà décroché 2 médailles d'or et une troisième pourrait bien tomber ce soir. C'est avec l'épreuve du snowboard cross et c'est à suivre à 19h30.
Question du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion, tous les mercredis à 19h20. Jean-François Aquili.
Notre invité ce mercredi est Martin Hirsch, le haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et à la jeunesse au surlendemain du sommet social de l'Elysée sur les retraites. Rendez-vous avec Martin Hirsch dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Thomas Legrand avec François Fressos du Monde, mercredi à 19h20. France Inter.
La différence.
Et on retrouve tout de suite Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Claire. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, beau triomphe français pour les jeunes magnifiques sportifs à Vancouver, on est très très heureux et ça sans aucune arrière-pensée. En musique, il y a aussi des jeunes qui font de très belles choses, j'en ai parlé à la fin de la semaine dernière. Et donc la Camerata Européenne, l'orchestre de chambre européenne Camerata, basée à Londres mais qui mélange des artistes camarades d'études ou d'orchestres venus de toute l'Europe, et ben ils sont à Paris ce soir. Vous me direz, ceux qui habitent pas Paris, ben voilà, ils sont perdants, mais en même temps, vous pouvez entendre les disques maintenant, savoir qui sont ces jeunes gens. Pour ceux qui habitent la région parisienne, c'est à 20h30 au théâtre de l'Atelier, European Camerata, avec en soliste Nicolas Dautricourt. Les voici tout de suite, l'orchestre, simplement, sans Nicolas, dans la Simple Symphony de Benjamin Britten, une œuvre qui a été composée d'après des souvenirs d'enfance, d'après des petites mélodies que Britten avait composées au fil de la plume, en se baladant dans la campagne anglaise en général, et puis il en a tiré une œuvre un peu plus construite, mais enfin bien fraîche et bien légère. Voici le final espiègle. Final espiègle, c'est Benjamin Britten qui l'a noté ainsi, de sa Simple Symphony, interprétée par l'Orchestre de Chambre Européenne Camerata, dirigée par Laurent Quesnel. Et ces jeunes gens et jeunes filles ont enregistré aussi un disque Félix Mendelssohn, justement, des œuvres de jeunesse, les fameuses symphonies pour cordes, composées à l'âge de 12 ans. Et on sait que Mendelssohn, de famille aisée et de famille intellectuelle, son grand-père était un philosophe, son père, un banquier qui savait se débrouiller, ben il a eu, le jeune Félix, l'occasion de se promener, de voyager assez facilement, aussi bien en Suisse qu'en Angleterre, en Écosse par la suite, et dans bien d'autres endroits. Il est même venu chez nous à Paris, il est allé en Italie, enfin bon, une vie aisée pour une fois, pour un artiste, un compositeur du 19e siècle. Voici le scherzo, intitulé La Suisse, c'est descriptif, avec au centre le fameux rang des vaches, la fameuse mélodie, si on peut dire, le chant des gardiens de troupeaux.